VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mardi 5 juin 2018. L'Éthiopie annonce mettre fin à son litige frontalier avec l'Érythrée. Au Niger, au moins 9 personnes tuées dans une série d'attentats suicides à Diffa, cible régulière d'attaques de Boko Haram. En Centrafrique, enquête judiciaire sur 2 mercenaires français présumés accusés d'avoir aidé un chef de milice de Bangui. Élection en RDC, le camp Kabila affirme que le président respectera la constitution, mais ses détracteurs toujours pas rassurés. Nouvelle attaque meurtrière attribuée à un groupe de jeunes islamistes au Mozambique. À Madagascar, la mobilisation de l'opposition continue malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Nous ouvrons avec cette nouvelle qui vient de tomber. L'Éthiopie annonce donc mettre fin à son litige frontalier avec l'Érythrée. La coalition au pouvoir écrit dans un communiqué ce mardi soir que le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement les conclusions d'une commission internationale indépendante qui, en 2002, avait délimité le tracé de la frontière commune avec l'Érythrée, source de vives tensions militaires entre les deux pays. L'Éthiopie, qui a par ailleurs levé l'état d'urgence après son instauration le 16 février dernier pour 6 mois. La fin de cette mesure est vue comme un nouveau signe d'apaisement du régime et de son nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, investi en avril dernier après une crise politique sans précédent en un quart de siècle. Yacouba Ouédraogo pour les détails.
L'état d'urgence avait été décrété par le gouvernement au lendemain de la démission surprise le 15 février du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalé. En avril, la coalition au pouvoir a investi un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo. Fin mai, il a fait libérer des centaines de prisonniers, dont l'anglo-éthiopien Adar Gachew Tsegye, responsable du groupe d'opposition armée Jinbok 7. Il a aussi rétabli l'internet qui était toujours coupé en dehors de la capitale après avoir fait libérer 11 blogueurs et opposants. Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans le sud du pays pour tenter de réconcilier les Somalis et les Oromo après des affrontements meurtriers en 2016. La fin de l'état d'urgence et les récentes libérations d'opposants ont été saluées par le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo, puis s'était étendu à d'autres régions, dont celle des Amara. La répression a fait au moins 940 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme.
Je vous le disais en titre, une enquête judiciaire a été ouverte en Centrafrique à l'encontre de 2 mercenaires français présumés accusés d'avoir aidé un chef de milice de Bangui. L'enquête concerne l'attaque terroriste du 1er mai visant une église à Bangui, Notre-Dame de Fatima. Selon un communiqué du procureur Eric Didier Tambo, ces Français, Christophe Rento alias Alpha et Bernard Cousin, sont poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation que Nimeri Matar Djamous alias Force, à savoir actes de terrorisme, assassinat, rébellion, incitation à la haine. La fusillade dans l'église avait fait 26 morts, dont un prêtre. En République démocratique du Congo, les partisans du président Joseph Kabila ont affirmé ce mardi leur attachement au respect de la Constitution face aux opposants de plus en plus nombreux qui mettent en garde le chef de l'État contre un troisième mandat, lequel est interdit par cette même Constitution. Dans une déclaration lue devant la presse, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atondou, a appelé les membres de cette famille politique à se tenir prêts à accompagner le président Kabila dans cette phase déterminante de son combat politique pour la démocratie dans notre pays, dit-il. Des élections sont prévues le 23 décembre pour remplacer Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le président a dit qu'il respecterait la Constitution sans dire formellement qu'il ne se présenterait pas. Ce silence est dénoncé par ses détracteurs, mais André Alain Atondou affirme ne voir aucun acte jusqu'à présent qui donnerait à penser que la déclaration du chef de l'État, à savoir qu'il va respecter la Constitution et qu'il ne va pas être candidat, est en passe d'être violé. Au Niger, après plusieurs mois d'accalmie, trois kamikazes ont de nouveau frappé à Difa hier soir en faisant exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de cette ville. Le dernier bilan fait état de moins 9 morts et d'une quarantaine de blessés. Cette région de Difa dans l'est du pays est le théâtre d'attentats sporadiques menés par des islamistes de Boko Haram. De Niamey, le compte-rendu de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Selon plusieurs sources locales, les trois explosions ont été entendues entre 21h30 et 22h temps universel dans le quartier d'Ifakura en périphérie de la ville. Ce fut d'abord un homme qui activa sa charge, suivi peu après d'une femme en voile qui a pris pour cible un groupe de jeunes assis devant leur maison. Quant à la troisième explosion, œuvre également d'une femme voilée, elle s'est produite près d'une école coranique où des jeunes talibés prenaient cours. Tous les trois kamikazes sont décédés, avec eux 6 autres personnes parmi leurs cibles. Selon toujours les sources locales non officielles, une quarantaine de blessés est enregistrée, dont 20 dans des cas graves. Les autorités régionales de Difa et même celles nationales n'ont pas encore communiqué sur cette autre attaque qui semble porter les marques de la secte Boko Haram. Depuis juin 2016, où 26 militaires nigériens ont été tués, les attaques de la secte Boko Haram ont baissé d'un cran dans la région de Difa. Seules quelques brèves incursions ont été enregistrées, comme ce fut le cas en mars dernier à Tumur, où les éléments de la secte Boko Haram ont ciblé un marché, tuant 5 personnes et emportant beaucoup de vivres avec eux. Abdul Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le tribunal militaire d'Abidjan a inculpé 5 officiers d'une école militaire responsables d'un bizutage ayant entraîné la mort d'un élève et fait un blessé grave. Le commandant de l'école militaire de Zambakro, son directeur de la formation et 3 élèves officiers qui ont porté les coups sont poursuivis pour homicide et violation de consignes. Au Mali, préparation des présidentielles, les nouvelles cartes d'électeurs biométriques sont arrivées à Bamako. Une plateforme de la majorité demande à l'opposition d'inscrire ses actions dans des espaces républicains, de temps que la même opposition s'apprête à descendre à nouveau dans la rue ce vendredi de la capitale malienne, Kassim Traoré.
Les 66 formations politiques qui soutiennent la réélection du président Ibeka ont fait leur première sortie médiatique. Le but était de répondre à l'opposition malienne afin qu'elle reste dans la mouvance de l'organisation de la présidentielle de juillet prochain. Boukari Treta, président de la plateforme Ensemble pour le Mali.
La loi électorale qui va organiser les prochaines élections a été fondamentalement relue à la demande de l'opposition. Et presque toutes les mesures nouvelles, toutes les dispositions nouvelles qui ont été introduites ont été proposées par l'opposition à partir donc du comité d'experts.
Boukari Treta et ses hommes souhaitent que l'opposition reste républicaine en posant des actes dans des espaces appropriés.
Il faut vivement demander à notre opposition, elle se revendique opposition républicaine et démocratique, qu'elle rentre dans la République. La République est l'espace commun pour tous. La rue n'est pas pour la République. La République a des enceintes organisées.
Lors de la cérémonie de réception des nouvelles cartes d'électeurs, l'opposition malienne a réitéré le maintien de sa marche du 8 juin 2018. Elle sera même synchronisée dans d'autres villes maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Également dans l'actualité, au Mozambique, 7 civils ont été tués et plus de 100 maisons brûlées ce mardi dans l'extrême nord du pays lors d'une attaque attribuée à un groupe islamiste qui a multiplié les attentats meurtriers ces derniers mois dans la région. Ce nouveau drame a survenu dans la province du Cabo Delgado, tout près de la frontière avec la Tanzanie, intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. La police mozambicaine affirme que les assaillants font partie du même groupe de jeunes musulmans radicaux connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe, groupe qui a émergé en octobre dernier. À Madagascar, l'opposition maintient la pression sur le président Iradjonar Mampian en appelant à poursuivre les manifestations ce mardi, malgré la nomination hier d'un nouveau premier ministre de consensus. Depuis fin avril dernier, l'opposition manifeste quotidiennement à Antananarive. Elle a d'abord protesté contre des lois électorales controversées et demande désormais le départ du président élu en 2013.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour calmer les esprits dans son pays, le roi Abdallah de Jordanie a officiellement chargé un ancien économiste de la Banque mondiale, Omar al-Razaz, de former un gouvernement après le départ du sortant Hani Mulki. Le souverain a appelé au dialogue sur le projet de réforme fiscale qui a provoqué à travers le pays les manifestations les plus importantes depuis des années. Le point avec John Linden.
Le gouvernement doit lancer immédiatement un dialogue en coordination avec le Parlement et la participation des partis politiques, syndicats et organisations de la société civile pour finaliser le projet de loi sur l'impôt sur le revenu, a écrit le roi dans une lettre désignant le ministre de l'Éducation, Omar al-Razaz, pour remplacer le chef de gouvernement démissionnaire, Hani Mulki. Cet appel intervient quelques heures après une mise en garde du souverain contre un saut dans l'inconnu si la Jordanie, lourdement affecté par l'accueil de centaines de milliers de réfugiés, échouait à résoudre la crise sociale qui a conduit à des manifestations inédites depuis le printemps arabe en 2011. Dans la nuit de lundi à mardi, et malgré la démission du Premier ministre, environ 2000 personnes sont de nouveau sorties à Amman pour réclamer le retrait d'un projet de loi augmentant l'impôt sur les modestes salaires pour certaines entreprises. Alliés des États-Unis, la Jordanie est l'un des rares pays arabes à avoir signé un accord de paix avec Israël.
Et puis au Guatemala, les recherches se poursuivent ce mardi pour retrouver des corps dans les villages détruits par l'éruption du volcan de feu qui a fait au moins 69 morts, un bilan encore provisoire. Les possibilités de retrouver des survivants étaient très faibles d'après les autorités. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Bagassi Koura.
L'État burkinabé compte injecter plus de 800 milliards de francs CFA dans un plan quinquennal pour renforcer la politique de la décentralisation engagée depuis 1991, annonce faite lundi par le Premier ministre Paul Kaba Tiba. Selon l'agence d'information du Burkina, l'État va financer ce plan à hauteur de 45% et les 55% seront assurés par les contributions des partenaires du pays. Le ministre nigérian du budget et de la planification nationale, Udoma Udo Udoma, a déclaré que l'économie du Nigeria a enregistré des entrées de capitaux évaluées à plus de 6 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2018. Selon le ministre, cet afflux de capitaux, qui est de 600% plus élevé que le milliard atteint au cours de la même période en 2017, est la preuve que les investisseurs ont de plus en plus confiance dans l'économie nigériane. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 2,2% au premier trimestre 2018 en raison de la chute de la production agricole et minière. Selon l'Agence nationale des statistiques, il s'agit de la pire baisse du PIB depuis le premier trimestre 2009. Quand l'économie s'était contractée de 6,1%, a ajouté l'agence dans un communiqué. Les mauvais résultats des secteurs agricoles, moins 24,2%, minier, moins 9,9% et industriel, moins 6,4%, expliquent ce ralentissement selon StatsA.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Suite de la Coupe COSAFOR en Afrique du Sud.
Pour les matchs de classement, ce mardi, l'Afrique du Sud face à la Namibie et le Swaziland face aux Lesotho. Madagascar affrontera la Zambie mercredi en demi-finale, tandis que l'autre affiche opposera le Zimbabwe au Botswana.
Sanctions pour Buffon.
Oui, l'ex-gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, a écopé d'une suspension de 3 matchs pour son exclusion en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Buffon avait été exclu pour protestation alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait vers la prolongation. L'arbitre avait sifflé un pénalty en faveur du Real que Ronaldo avait transformé, ce qui avait permis la qualification du Real Madrid.
Tennis, Roland Garros.
L'Autrichien Dominic Thiem, numéro 8 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de Roland Garros en battant le numéro 3 mondial Alexander Zverev en 3-7, 6-4, 6-2, 6-1. Chez les dames, l'américaine Madison Keys, 13e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales en dominant la Kazakh Lyulia Putintseva en 7-6, 6-4.
Et puis, argent dans le sport, un boxeur américain au sommet.
Floyd Mayweather est le sportif le mieux payé de la planète en 2018 avec, tenez-vous bien, des gains de 285 millions de dollars. Selon le classement publié par le magazine économique Forbes, Mayweather, 41 ans, a dépassé durant sa carrière le milliard de dollars de gains comme Michael Jordan ou encore Tiger Woods. On va noter que les stars du football, Lionel Messi avec 111 millions de dollars ou encore Cristiano Ronaldo, 108 millions de dollars, occupent les deuxième et troisième places sur le podium. Le Brésilien Neymar est cinquième avec 90 millions de dollars.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar, Ali Fassal, et de ses co-accusés a été renvoyé au 9 juillet. Ses avocats souhaitent plus de temps pour se préparer. Ali Fassal avait écopé de 5 ans de prison pour une affaire de fausse facturation portant sur plusieurs milliards de francs CFA. À Dakar, Abdourahman Dia a interrogé maître Boubacar Cissé, un des avocats de l'État sénégalais.
Non, c'est en fait le procès a été renvoyé au 9 juillet. Nous, en tant qu'avocats de l'État du Sénégal, nous n'étions pas d'accord. Parce que nous avons estimé que ce procès devait se dérouler aujourd'hui. Parce que le dossier, il est en état d'être jugé. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à ce renvoi. Mais la Cour a estimé devoir renvoyer le dossier au 9 juillet. Sur la demande, je précise bien, des avocats de la défense.
Qui voulait plus de temps d'ailleurs, qui voulait que le procès soit renvoyé au mois de novembre.
Plus de temps, on n'a pas besoin de plus de temps pour ça. Parce que c'est moi en fait, on n'est pas devant le tribunal, on est devant une cour d'appel. La cour d'appel, on défère devant la cour d'appel un jugement. Le jugement sur lequel la cour va statuer, c'est tous les arguments tourneront autour de ces décisions de condamnation. Donc en fait, par conséquent, on n'a pas besoin d'un délai de 3 ou de 4 ou de 5 mois ou de 6 mois pour vraiment préparer sa défense par rapport à un jugement qui est déjà entre vos mains.
Alors là, les avocats de la défense demandent que le verdict en première instance soit confirmé ou voulez une plus lourde sentence?
Non, les avocats de la défense veulent que le verdict qui a été rendu en première instance soit infirmé. Bon, maintenant, il appartiendra au parquet, au procureur général, qui est aujourd'hui monté à l'audience, de soutenir l'action publique. Parce que l'État du Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est l'action civile, c'est-à-dire les intérêts civils.
Mais est-ce que l'État a subi des préjudices dans cette affaire?
Ben évidemment, parce que si l'État n'avait pas subi de préjudices, l'État ne serait pas là aujourd'hui.
Et que répondez-vous aux accusations selon lesquelles qu'il s'agit plutôt d'un procès politique visant à empêcher Ali Fassal
non, mais vous savez,
de se
en fait,
présenter
vous savez, vous
à la présidentielle?
Ce qu'il faut retenir, c'est que Ali Fassal ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique.
Il a quand même gagné la ville de Dakar aux dernières élections.
Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, élection, gagner la ville de Dakar et gagner les élections présidentielles, c'est différent. Parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Donc le Sénégal, c'est jusqu'au fond fin des villages les plus éloignés. Donc par conséquent, c'est pas parce que c'est moi, c'est le maire de la ville de Dakar, que forcément, en fait, nous, on l'empêche, l'État veut l'empêcher d'être candidat. Il est poursuivi pour des faits de droit commun. C'est pas un procès politique. Il est poursuivi pour des faits de droit commun. D'escroquerie portant sur des deniers publics, de faux, et d'usage de faux. Là, il ne les conteste pas. C'est des infractions.
Mais pourquoi ces partisans parlent de procès politique selon vous?
Ils sont libres de le dire. Ils sont libres de le dire. Mais Khalifa lui-même n'a jamais dit qu'il est candidat. Est-ce que vous l'avez une fois entendu dire que je suis candidat? Non, il n'a jamais déclaré. Jamais. Ce sont les gens, ces partisans qui le disent. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles.
Maître Boubacar Cissé, avocat de l'État sénégalais, interviewé à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Congo-Brazzaville, la justice a condamné à 10 ans de prison l'ancien ministre d'État Jean-Martin Bemba pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Condamnation par contumace, car il se trouve en France. Sa condamnation intervient après celle du général Norbert Dabira, 5 ans de prison, et du général Jean-Marie Michel Mokoko, à 20 ans de prison, également pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Morgane Guerriec a recueilli la réaction de Jean-Martin Bemba.
Nous sommes dans une affaire burlesque. Au début, on a dit qu'on avait des armes avec lesquelles on devait faire la déstabilisation des institutions. Et puis après, ils ont abandonné ce dossier. Maintenant, ils ont fabriqué un deuxième dossier pour dire qu'on voulait faire une sorte de printemps arabe.
Mais pourtant, la condamnation parle bien de complicité de détention illégale d'armes de guerre.
Oui, mais 5 années de procédure, dès que ça a commencé, les avocats ont demandé au procureur général de présenter les CD. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des armes dans l'affaire si vous ne présentez pas les CD. Il n'y a pas eu de CD. Donc on n'a même pas présenté une munition. C'est une confection comme ça, parce qu'en fait, ils pensaient pouvoir aller larguer des armes chez nous, mais nous étions tellement organisés, bien organisés partout. Ils ont fait des perquisitions en espérant balancer quelques armes, n'ont pas pu le faire. Du coup, pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à le faire. On se retrouve au cours d'un procès, il n'y a aucun scellé, aucun. Ni témoignage contre nous, ni scellé.
Donc ce que vous dites, c'est que le gouvernement n'a pas pu avancer de preuves concernant la détention d'armes de guerre.
Aucune preuve, aucune preuve.
Alors vous êtes en France, qu'allez-vous faire?
Avec les avocats, on va voir ce que je suis de faire. Ceux qui sont là-bas, on va se battre pour eux. Le dossier avait été examiné par les Nations Unies. On avait convié le gouvernement congolais à se présenter à Genève. Ils ne sont pas allés. On leur a envoyé une copie du dossier. Ils n'ont pas répondu. Le gouvernement n'a avancé aucun élément pour contester ce que nous avons pu produire à Genève.
Alors avant vous, il y a le général Mokoko et Dabira qui ont été condamnés. Et maintenant, c'est vous. Que se passe-t-il au Congo-Brazzaville?
Il s'agit de régler les comptes à ceux considérés comme gênants. Il n'y a pas une seule affaire qui tienne.
En quoi est-ce que vous, Jean-Martin Bemba, vous avez été dérangeant pour le pouvoir?
Ah, je ne sais pas, c'est à vous de dire. Moi, je fais mon boulot. J'espère qu'on a eu des débats sur le changement de constitution. Mes positions étaient claires. Et puis, sur bien d'autres problèmes, je crois que je n'ai pas le droit à me cacher. Quand je n'ai pas été d'accord, j'ai affirmé que je n'étais pas d'accord. Et puis, il y a plus de 120 détenus politiques en ce moment.
Jean-Martin Bemba, ex-ministre d'État du Congo-Brazzaville, qui vient d'être condamné. Il était en ligne de France.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM. C'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Bénin interdit le commerce illicite des produits pétroliers. Qu'est-ce qui va changer avec cette énième interdiction de la vente illicite des produits pétroliers au Bénin? Réponse avec Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud à Cotonou, au micro de Irénée Herman Ungbu.
Qu'est-ce qui va changer? C'est que si le pouvoir décide d'appliquer réellement cette loi, on n'aura plus ces étalages de bidons au bord des voies qui jonchent les voies, les rues de Cotonou et les grandes agglomérations du Bénin. Donc on n'aura plus ça, tout le monde sera obligé d'aller vers les stations, c'est ce qui va changer.
Alors, mais la loi existait déjà, qu'est-ce qui empêchait son application?
C'était pas réellement une loi, c'était un décret, donc une décision prise par un président de la République, un très vieux décret. Et son application, on l'avait appliquée. Vous avez constaté que sous le régime de Boni Yayi, que sous Kérékou, à la fin de Kérékou, il y a une répression contre ce commerce-là. Porte Novo en garde les séquelles avec des soulèvements un peu partout dans cette ville qui est quand même championne dans ce commerce. Soit au Bénin, ce qui manque le plus, c'est les stations. C'est maintenant qu'il y a une politique de mise en place des stations-service au Bénin. Au regard de cet état de choses, c'était un peu difficile d'appliquer les tests en matière de répression de commerce illicite de produits pétroliers.
Mais il y aura un impact énorme sur l'économie puisque beaucoup de personnes vivent de cette activité de vente de carburant frelaté. Et que vont-elles devenir à présent? Y a-t-il des dispositions de la loi dans ce sens?
Forcément, il y aura un impact sur l'économie parce que le commerce illicite de produits pétroliers, c'est la plus grosse économie du pays. Il n'y a pas cette rue au Bénin où on ne voit pas les étalages d'essence communément appelés paillons. Donc, c'est la plus grosse économie. Et la proximité avec le Nigeria, la parité CFA Naira aussi a facilité la chose et ça absorbe un grand nombre de chômeurs. ça sort un grand nom. Donc, tant bien que mal, on fermait les yeux sur ça parce que ça réglait aussi un problème social. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir sur là? Moi, je ne pense pas que la loi votée hier, il faut le dire, ce n'est pas spécifiquement voté pour le trafic illicite des produits pétroliers, c'est le code pénal qui a été toiletté. La loi votée hier n'a pas prévu de mesures pour ça. Au contraire, la loi a prévu des sanctions pour ceux qui continueraient à s'employer dans ce contexte.
On écoutait Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud, joint à Cotonou.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, lundi, la Cour suprême a donné raison à un pâtissier qui avait invoqué sa foi religieuse pour refuser de vendre un gâteau de mariage à un couple homosexuel dans l'État de Colorado. Pour comprendre les subtilités de cette affaire, Bagassé Koura a joint Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Il commence par la genèse de l'affaire.
Le boulanger, il a constaté que c'était contre sa foi, parce que comme un chrétien, il ne croit pas dans le mariage homosexuel. Et donc il a refusé de faire le gâteau pour cette occasion spéciale. Et c'est là le problème.
Il y a d'abord eu une plainte là-bas au Colorado où le boulanger a eu raison.
Non, la plainte était, je ne sais pas comment on appelle.
Les droits civiques.
Equal Rights Commission of Colorado.
Oui.
Et la commission a décidé que le boulanger a violé une loi de l'État de Colorado. Et c'est là où la Cour suprême a pesé là-dessus. Et si on regarde comment les justices, les juges de la Cour suprême ont jugé cette affaire, on a dit que c'était la commission qui avait tort. Parce que la commission avait cité quelques faits historiques d'esclavage, Allemagne sous les nazis, etc., pour caricaturer le boulanger comme un raciste. Et c'est là où la Cour suprême a constaté que le boulanger n'avait pas justice chez la commission. Donc la Cour suprême n'a pas vraiment dit si on a le droit de refuser les services aux couples homosexuels dans ce cas.
Comme la Cour suprême n'a pas tranché, ça veut dire que des situations, des conflits similaires vont toujours continuer à se poser.
Oui, c'est ça le problème. C'était une décision assez serrée. Et on n'a pas tranché ce sujet. Et on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On a un autre cas dans l'État de Washington. C'est un fleuriste qui a décidé qu'il ne voulait pas...
vendre ses fleurs.
Il ne voulait pas donner les fleurs à un couple homosexuel pour le fait de mariage. Peut-être dans ce cas, on aura une décision plus profonde. Il reste à voir.
Le politologue Richard Conley joint à Gainesville, en Floride.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Et Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Sheikh Thierro. C'était Bill Barber à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir encore une fois. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.